Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Plus lourd, plus grand, plus puissant, Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles de Gaulle. Toujours pas de budget. Une loi spéciale doit donc être examinée ce soir au Conseil des ministres pour permettre aux administrations de continuer à fonctionner. La mobilisation des agriculteurs, elle est en perte de vitesse. Mais sur l'A64, le blocage subsiste. Des dizaines d'irréductibles comptent bien y passer les fêtes.
Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la construction d'un nouveau porte-avions.
Prévu pour remplacer le Charles de Gaulle, il doit entrer en service en 2038. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État hier depuis le Noël des troupes à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, a déclaré Emmanuel Macron, pour justifier donc la construction de ce porte-avions adapté, Romain Houg, aux nouveaux risques.
Oui, un porte-avions plus lourd, plus grand et plus puissant. Il devrait faire 310 mètres de long, soit 50 mètres de plus que le Charles de Gaulle et pesait 78 000 tonnes, presque le double du porte-avions actuel. L'équipage, lui, ne change pas. 2000 personnes au total, conçu par Naval Group. Il sera construit à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique. Une construction colossale qui va nécessiter l'intervention de pas moins de 800 entreprises, dont 80% sont des PME. Emmanuel Macron devrait se rendre sur place en février prochain. Ce PANG, pour porte-avions de nouvelle génération, est un édifice qui pourra accueillir tout type d'aéronefs, avions radars, hélicoptères, drones, et sera équipé de catapultes électromagnétiques pour lancer les avions de combat du futur, plus lourds en carburant et en armement. L'activité sera aussi plus dense, il sera possible d'atterrir et de décoller en même temps depuis le porte-avions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de quoi asseoir la puissance militaire de la France qui, avec les États-Unis, est l'un des deux seuls pays à posséder un porte-avions à propulsion nucléaire.
Un porte-avions qui va coûter 10 milliards d'euros, une somme adoptée malgré l'impasse budgétaire. Faute de compromis, le gouvernement prépare donc cette semaine l'adoption d'une loi spéciale. Elle doit permettre aux administrations publiques de rester fonctionnelles. Les discussions reprendront après le nouvel an. Hélène Terzian, l'objectif du gouvernement, c'est qu'un budget soit voté avant la fin janvier.
Oui, c'est le message martelé par la ministre du Budget. Amélie de Montchalin appelle à ne pas se contenter d'un service minimum. Ce service minimum, c'est cette loi spéciale qui sera présentée ce soir en Conseil des ministres avant d'être votée par les deux chambres. Une rustine qui permet de ne pas paralyser l'État. Mais pour que la France se dote d'un vrai budget, comme le dit la ministre, avant la fin janvier, il faut un compromis. Et elle prévient, y compris avec quelques hausses d'impôts. Députés et sénateurs n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, le Premier ministre reprend la main en consultant les forces politiques hier, les chefs parlementaires du bloc central, aujourd'hui la droite, les socialistes, les écologistes. Parviendront-ils à un consensus ? Pour l'instant, l'exécutif renonce toujours à utiliser le 49-3 réclamé par des ténors du bloc central et de la droite.
Un épisode Cévenol traverse le sud de la France. 6 départements en vigilance pluie, inondation ou crue ce matin. Parmi eux, 2 concernés par un risque de neige verglas. Il s'agit de l'Aveyron et du Tarn. Dans le sud-ouest d'ailleurs, où se poursuit la mobilisation des agriculteurs. De moins en moins de barrages au niveau national. Mais le mouvement, il est donc en perte de vitesse. Sauf sur l'A64, où le barrage est actif depuis 11 jours. Les agriculteurs protestent contre l'abattage massif des bovins. Dès le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse. Et Léonie Guilbeault, malgré l'ultimatum de la préfecture, il compte bien rester là.
Perchés sur leurs escabeaux, les agriculteurs accrochent des décorations de Noël un peu particulières sur leurs sapins.
Il y a plusieurs styles de lacrymo, t'as ceux-là, t'as ceux avec le canon.
Des grenades lacrymogènes en guise de boules de Noël.
Plutôt que de les laisser dans la nature, ben, on les accroche au sapin. C'est le cadeau qu'on nous a offert, alors on en profite.
Hein. Des lacrymos qui ont servi en Ariège lors d'affrontements entre forces de l'ordre et agriculteurs il y a une dizaine de jours. Le message est donc clair.
Nous, on est déterminés. Nous, en tout cas, on ne bougera pas.
Malgré l'ultimatum de la préfecture, Jérôme Bail insiste.
Avec le mouvement de soutien social qu'il y a, s'ils sortent les agriculteurs de force des autoroutes, je pense que les fêtes de fin d'année vont être vraiment chaotiques.
Le fonds d'urgence de 11 millions d'euros promis ce week-end par le Premier ministre ne suffira pas.
C'est encore un effet d'annonce. On prend de l'argent sur un moment, mais ça ne nous permet pas de sortir la tête de l'eau. Quoi.
Florent est éleveur.
Quelques aides supplémentaires, c'est pas réellement ce qu'on cherche. On cherche juste à vendre nos produits au juste prix. Quoi.
Les ultras de la 64 sont prêts à passer les fêtes sur les blocages. Des prêtres se sont déjà portés volontaires pour y célébrer une messe de Noël.
7h05 sur RMC, Marseille, à nouveau endeuillé. Un jeune homme de 22 ans tué par balle.
Samedi soir, moins d'une semaine après la visite d'Emmanuel Macron venu dans la cité phocéenne pour renforcer la lutte contre le narcotrafic. Un autre jeune a été lui blessé et Anna Jaujard, une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée. Oui, c'est vers 21h samedi soir dans le quartier du Mail, dans le 14e arrondissement de la ville, que le jeune homme de 22 ans a été touché d'au moins 5 balles de Kalachnikov. Il est mort sur place. Il était connu des services de police pour usage de stupéfiants. Une heure et demie plus tard, un autre homme blessé par arme à feu se présentait aux urgences, disant avoir lui aussi été victime de la fusillade. La voiture dans laquelle circulait le ou les tireurs a été retrouvée, brûlée quelques kilomètres plus loin. La victime était le neveu d'un des bénévoles de l'association Conscience, fondée par le militant anti-narcotrafic Amine Kessassi. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, l'association exprime toutes ses condoléances aux proches et dénonce l'engrenage meurtrier qui continue de frapper nos quartiers. Une semaine après l'attentat antisémite qui a fait 15 morts à Sydney, le Premier ministre australien présente ce matin ses excuses à la communauté juive du pays. De nouveaux documents dévoilés par la police affirment que les deux assaillants, un père et son fils, s'étaient entraînés en Australie avant leur passage à l'acte.
Et puis football, Lyon, dernier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, l'OL s'est imposé 3-0 face au Petit Poussé et son voisin Saint-Cyr Collonges. Mais malgré la défaite, le club de Régional 1 avait quand même de quoi se réjouir, Aurélien Tiercin.
Une fête des voisins, une vraie, une fête de famille même, puisqu'à Saint-Cyr, supporters, joueurs, tous sont fans d'abord de l'Olympique lyonnais.
De toute façon, on était contents quel que soit le résultat, donc c'était une belle fête, effectivement.
C'était une très belle fête, c'était très réussi de la part des deux clubs, et merci l'Olympique lyonnais, et merci Saint-Cyr.
Walid Zemouri a beau avoir 36 ans, le défenseur de Saint-Cyr a vécu le plus beau moment de sa carrière.
C'est notre club, on joue dans notre ville, devant nos supporters et les supporters lyonnais, c'est un rêve pour tout le monde. Ça va rester dans nos têtes, hein. On pourra dire qu'on a fait douter l'Olympique lyonnais.
Kalis Mera, côté OL et lyonnais de naissance, s'est régalé de jouer contre ses propres supporters.
Si on n'aurait pu pas les jouer pour qu'ils aillent plus loin, bah, ça aurait été mieux. Mais bon, on prend les équipes qu'on nous donne. Mais bien sûr, voilà, de jouer contre des supporters de l'OL, bah, ça fait plaisir.
Mais la magie de la Coupe de France est malheureusement déjà finie pour le capitaine Saint-Cyro, ses coups soirées.
Ouais, on va profiter de la soirée avec les amis et la famille. Et demain, 8h bureau. Hein.
Ses coups soirées très matinales, donc, puisqu'avant d'être footballeur, il est d'abord cheminot à la SNCF.
À la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, le pays hôte, a réussi son entrée dans la compétition en battant les Comores 2-0 en match d'ouverture. La 35e CAN à vivre sur RMC Radio officielle de la compétition, avec des matchs en direct et l'afterfoot délocalisé à Rabat au Maroc tous les soirs à partir de 22h.
Merci Rachel, c'était le journal donc de Rachel Saadedine.